Bonjour tout le monde et bienvenue à Sortie de zone, 18e épisode au lendemain d'une 6e défaite de suite des Canadiens de Montréal. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette situation, nul autre qu'Alexandre Pratte, Simon-Olivier Lorange, Jérémy Rainville et votre humble serviteur, Mario Langlois. Bonjour messieurs.
Salut Mario.
Bonjour.
Salut Mario.
Comment ça va?
Ben nous ça va bien.
Oh!
Ça va mieux que pour les joueurs du Canadien.
Suspense. Que se passera-t-il chez le Canadien? Comment sortira-t-on de cette mauvaise passe? Qui devra payer le prix? D'entrée de jeu, messieurs, j'ai envie de vous demander qui sont les coupables? Qui sont les coupables? Qui sont les touristes dans cette équipe? Qui sont les phony baloney? Qui sont les vrais? Avez-vous des réponses pour le public à l'écoute aujourd'hui? Qui va prendre le flambeau? Oh, Alexandre Pratte se manifeste!
Oui, j'y vais parce que j'en peux plus, en fait, de voir les gens demander la tête de Claude Julien pour les 6 dernières défaites. Honnêtement, je trouve que c'est absolument injustifié. C'est pas Claude Julien le responsable de ce qui se passe présentement. Au contraire, cette équipe-là joue bien sur les phases de jeu contrôlées. C'est ce que peut diriger un coach, là, l'équipe arrive bien préparée. Écoutez, ils ont fait quand même 48 tirs au but. Il y a deux problèmes, à mon avis. Un d'exécution et un deuxième d'introspection. Il y a vraiment des joueurs qui doivent se regarder dans le miroir et qui ne se regardent pas assez dans le miroir. On cherche des coupables sans aller dans le jeu. Quand je vois une recrue, quand j'entends une recrue comme Cale Fleury ce matin à l'entraînement dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il était mis de côté après une défaite de 8-1, puis qu'il disait « Ben moi, je trouve que j'ai pas si mal joué. » Attends, le jeune, vous avez perdu 8-1. Dans ce match-là, tu as le pire indice Corsi de ton équipe.
Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir bien joué dans une défaite de 8-1?
Exactement. Sérieusement, je pense qu'après une défaite de 8-1, là, Claude Julien il est justifié de faire les mouvements qu'il veut dans l'alignement. Et l'autre chose, c'est que Claude Julien, là, il est forcé de jouer avec les 22 joueurs qu'il y a dans son alignement. Là. Il n'y a pas de relève à Laval présentement. Puis Marc Bergevin, il est, je crois, en Russie. En fait, il n'est pas présent autour de l'équipe présentement. Il n'y a pas d'échange qui se trame là, dans les 48 prochaines heures. Il est obligé de brasser ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?
J'ai une petite réserve.
Alexandre était prêt. Simon-Olivier, on va voir.
J'ai une toute petite réserve par rapport à ce qu'Alexandre dit. C'est-à-dire que je ne crois pas moi non plus que c'est la faute de Claude Julien, mais je trouve qu'il y a quelque chose de suspect dans ce que Martel Julien depuis 2 semaines de dire que les joueurs n'appliquent pas le système. Est-ce que les joueurs achètent le système? Et est-ce qu'il y a une déconnexion entre Julien et ses joueurs? Fait que je dis pas que c'est la faute à Julien, mais clairement, le courant ne passe pas. Il y a quelque chose qui accroche dans le message.
Moi, quand je vois un attaquant rentrer, mettons, dans une zone adverse, puis que les deux défenseurs s'en vont changer au banc, puis que l'attaquant, à place de domper dans le fond pour permettre le changement, il essaye de tricoter. Oups! Un revirement, puis il se fait prendre.
C'est référence à Gallagher là-dessus.
Sérieusement, tu sais, je trouve...
C'est erré plus souvent cette année, ben, d'ailleurs.
Hier, Julien était très clair, là, après le match. Il a été, moi, je trouve, très, très sévère. Ben, pas sévère. Il a été sévère, mais juste envers ses joueurs. Puis, est-ce que t'as la clip? Vas-y.
Oui.
Those guys in there care. They're frustrated as heck. They want to do well. They want to represent Montreal Canadiens the right way. They don't like what's going on, and neither do we. I mean, I'm frustrated as hell right now.
Traduction, les gars, il est frustré comme l'enfer. Comment on traduirait ça de façon... En tout cas, on a besoin de traduire.
Il est pas mal frustré.
Tout le monde est frustré du côté du Canadien. On n'aime pas ça, ça c'est clair. Et puis je te laisse continuer, Alexandre, tout de suite après. Mais ce que je veux dire, c'est que, Mario, quand t'as parti ta musique, ça, je pense que c'est la musique de jazz.
Oui.
Je pense que ça fait sortir le requin. Tout le monde, là, il y a du sang. Là, les requins sortent. Là. Attention, on a des têtes à couper chez les Canadiens de Montréal. Ouais. Moi, j'ai juste une chose à dire. OK, 6 défaites, je suis d'accord. OK, Carey Price est ordinaire. OK, Jeff Petrie est ordinaire. Mais présentement, chez les Canadiens, c'est un problème mécanique. C'est de la mécanique qui ne fonctionne pas. Et tout le monde est pris par « je vais aider le club en marquant des buts ». Le Canadien marque beaucoup de buts, mais est mauvais défensivement. Et je parle pas juste dans sa zone, mais en échec avant. Écoute, les trois gars sont profonds dans le fond de territoire. Un défenseur qui est trop profond, on crée des surnombres. C'est ça la situation qui se passe chez les Canadiens. On veut trop, puis on travaille mal. C'est ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal, selon moi.
Mais moi, je pense que c'est pas juste mécanique. Je pense que c'est aussi structurel. Sérieusement, je pense que Scotty Bowman serait à la tête de cette équipe-là, ou Pep Guardiola, ou nommé Yogi Berra serait à la tête de cette équipe-là. Cette équipe-là ne ferait pas 100 points au classement général.
Mais Alexandre, laisse-moi juste t'expliquer quelque chose. Sur le premier but, OK? Le premier but qu'on a vu, c'est un 2 contre 1. C'est Gouttsev qui fait une passe. Et puis, finalement, ça déjoue Carey Price. Ça, c'est le premier but. Il y a un phénomène au hockey qui s'appelle, en fait, on va définir les attaquants en F pour forward, puis les défenseurs avec un D. Fait qu'on va F1, F2, F3, le défenseur 1, 2, 3. On dit, quand tu veux être sûr de pas donner de surnom, le troisième attaquant qui rentre dans ton territoire doit rester haut, en support à tes défenseurs. Puis maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais dans la Ligue nationale de hockey, les défenseurs, ça pinche. Mais mettez, il était à la ligne bleue, un pied en dedans de la ligne bleue. C'est supposé d'être le F3, le troisième attaquant, qui vient donner du support si la rondelle passe derrière le défenseur. Le F3, hier, il était dans le fond de la zone tout le temps. Kotkaniemi, deux fois, a essayé d'aller mettre des mises en échec dans le fond du territoire quand il n'est pas à sa place. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'il veut mal faire, c'est qu'il veut trop en faire.
Tu me permets d'entrer une image, m'immiscer dans ton affaire. Oui. Souvenez-vous du but que Dano a scoré récemment, qu'il était tout seul en avant du filet, il était resté là, ça fait une couple de games, là, avant que, je pense, la séquence de défaite ne s'amorce. C'est ça que tu veux dire, traîner dans la zone, là, ça a bien tourné, exact. Il a scoré. Mais il y a beaucoup de tricheurs, effectivement, dans l'équipe, qui attendent qu'un revirement soit créé, la ligne bleue, ou en zone neutre, ben, idéalement, la ligne bleue, pour en profiter en restant de la zone. Et ça revient pas, mais tu peux continuer, Jérémy. C'est juste ça qui me vient en tête à t'écouter.
Et ça, c'est un volet. Puis
c'est le premier but du Canadien contre Washington, Dano, le vendredi, la dernière victoire de l'équipe.
Mais ce que je veux ajouter présentement, c'est que si on regarde l'attaque du Canadien, là, l'attaque du Canadien a marqué 85 buts. Ça, c'est deux de plus que le Lightning de Tampa Bay. Vous allez dire Tampa Bay, mais à moins de matchs de jouer, je pense qu'il y en a trois. Vous avez raison. Mais c'est une moyenne de 3,86. On a le couteau entre les dents à l'attaque. On dit, garde, on est un club, on est capable de marquer des buts.
Mais
maintenant,
Jérémy, tu peux-tu avoir le couteau entre les dents à l'attaque quand t'en donnes plus que t'en scores?
Exactement.
C'est-tu du couteau entre les dents ou c'est, je pense, à ma fiche personnelle pour négocier un contrat?
Peut-être aussi. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai l'impression présentement. Écoute, l'attaque du Canadien, c'est comme Arturo Gatti. C'est « je varge » puis « au yard » la défensive. Mais je pense que ça marche pas de même. Quand tu es un club qui n'a pas énormément de talent, tu dois être capable d'avoir un meilleur jeu défensif, puis c'est pas ce qui se passe présentement chez les Canadiens.
Mais en fait, Claude Julien, hier, a été très clair. En français, à son point de presse, après le match, il a dit « c'est pas ça qu'on leur demande de faire. C'est pas ça qu'on leur montre. Les joueurs ne font pas ce qu'on leur enseigne. » Ça parle, là, je veux dire. Soit que les joueurs rachètent pas, mais moi, je pense que c'est pas ça. Je pense, comme Mario dit...
Il y a des tricheurs. Il y a des tricheurs qui nous disent toutes les bonnes paroles devant le micro, comme on a entendu aujourd'hui, puis que ça à glace, ils font ce qui leur passe par la tête au moment où ça se passe, avec l'excuse ultime de dire que ah, l'hockey est vraiment rapide. Vous autres, vous avez pas aucune idée de comment ça se passe avec des micros dans les mains, là. Mais le jeu est tellement rapide qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est pas de notre faute pour revenir à ton manque d'introspection. Écoute, le point de presse de Domi à midi, là, m'a dit une affaire. Tu parlais des gars qui sont pas regardés longtemps dans le miroir. Fait que c'était une bonne idée de sortir Jonathan Drouin pour déplacer un petit peu le discours aujourd'hui au lendemain d'une sixième défaite de suite. Une bonne stratégie de communication 101, telle qu'on connaît le Canadien. Les dirigeants changent, mais les stratégies restent les mêmes. C'est de bon ton, c'est de bonne guerre, mais ça changera rien la situation de l'équipe pour les matchs de demain puis dimanche. Comment qu'on va régler ça, les gars? Puis êtes-vous capable d'identifier des gars qui sont vraiment des touristes en ce moment ou c'est vraiment collectif?
Ben, les touristes.
Jeff Petrie, présentement, il est pas mal touriste, je trouve.
Mais sais-tu quoi? Lui, il fausse les données parce qu'il joue tellement bien quand t'es à son maximum qu'il fait partie des quelques joueurs qui ont fait fonctionner cette équipe-là, dont Price quand il va bien, dont Weber quand il va bien. Hier, Weber, là, les vidéos des deux contre un, c'est quoi ne pas faire? Ouais. Regardez ça, tu sais, c'est incroyable, puis je veux pas planter Weber. Ouais. Mais quand ces gars-là jouent bien, je pense qu'ils changent la donne vraiment et l'équipe paraît tout à coup meilleure qu'elle ne l'est. Parce que c'est difficile à dire. Il y a pas longtemps, on disait que Chiarot s'était placé. Là, il y a des soirs que Chiarot a l'air d'un gars qui a de la misère à se faufiler dans l'alignement. C'est à s'y méprendre, les gars. La donne change de match en match. Un gars a l'air bon tantôt. Petrie est un bon exemple de ça. Il a l'air à flyer sa glace. Puis là, il a l'air d'un gars qui n'est pas capable de charondelle.
Ben, Chiarot s'en sort bien parce qu'il a fait plus de points que ce à quoi on se serait attendu de lui récemment. Mais Chiarot, c'en est un qui était très, très, très loin au fond de la zone des Devils hier soir sur le premier but. Et hier, les joueurs dans le vestiaire en parlaient, ils disaient carrément, en fait, c'était Riley qui disait, t'sais, clairement, les Devils étaient préparés à nous affronter parce que dès qu'on s'avançait, ils fonçaient sur nous comme des forcenés et ils contre-attaquaient et on n'avait pas de chance.
C'est le jour de la marmotte.
Et c'est drôle parce que tantôt, il y avait la question des requins qui sentent le sang. Est-ce que c'est nous qui sentons le sang? Et c'est Gallagher qui l'a dit, les adversaires sentent le sang. Mm. C'est vraiment, le Canadien est une équipe, tout à coup, qui est très attrayante pour les adversaires. Ils savent où frapper. Et visiblement, les Devils ne marquent pas de but cette saison. Leurs joueurs ne fonctionnent pas.
C'est la pire attaque de la Ligue. Sauf que là, il y en a quand même marqué.
Ils en ont marqué 5 contre Carey Price et contre le Canadien.
Mais retournons au cœur. Une des questions centrales, c'est-tu les joueurs qui achètent pas le système? Parce que clairement, Claude Julien l'a dit, Ils ont joué pas bien depuis le début de la saison défensivement. Là. Même si on gagnait des matchs, c'est-tu point de presse d'hier ou de mardi? Ils disent, on joue pas bien défensivement depuis le début. Mais ils s'en sont sortis avec des victoires, le bon arrêt au bon moment, le bon but, tir en tir de barrage, etc. Là, il n'y a plus rien qui passe. Ils continuent d'être mauvais. Ils sont pires qu'ils étaient défensivement. Fait que t'es pas obligé d'avoir une équipe de grand talent pour être capable de bien jouer défensivement. T'es peut-être le plus technicien du groupe ici, Jérémy, parmi
Je vais juste arrêter là-dessus. Moi, je pense sincèrement, ça prend juste un peu d'humilité. Là, t'as plein d'attaquants qui pensent qu'ils vont finir la saison avec 25 buts. Il y en a qui, il faut qu'ils mettent le bas de travail, puis il reste le troisième homme en haut, puis vient donner un support à tes défenseurs. C'est ce qu'on voit pas présentement. Tout le monde veut
mais
aller
pourquoi,
marquer
Jérémy,
des buts.
Mais pourquoi, Jérémy? C'est-tu parce que les gars, ils veulent pas acheter le système? Parce qu'ils l'appliquent pas depuis 20 matchs, là, depuis plus que 25 matchs.
Je pense qu'ils sont têtus, Mario puis les gars. Je pense vraiment qu'ils sont têtus. Et j'étais convaincu, la dernière fois que Mario t'était au Temple de la Renommée, moi j'avais dit que le Canadien affrontait Columbus et Ottawa. J'étais convaincu que le Canadien était pour gagner ces deux matchs-là parce que je me suis dit, on va jouer serré, on va jouer avec humilité puis on va profiter de l'attaque. Ça n'a pas été le cas. Je suis surpris de voir que ça fait aussi longtemps que les gars ne font pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est arrête de te garrocher à l'avant. Les défenseurs, c'est normal de les voir faire de la pression au territoire adverse, mais c'est parce que ça prend des gars en support. On n'en voit pas. Je comprends pas comment ça se fait que les gars comprennent pas le message encore. Ils se font brûler match après match. À un moment donné, il faut que ça arrête.
Parce que, tu sais, on a beau dire, là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense que dans les 6 derniers matchs, le Canadien a au-dessus de 30 tirs à chaque fois. Normalement, tu gagnes. Là. En tout cas, en haut de 40 tirs, normalement, tu gagnes. Vraiment, c'est comme si l'équipe jouait juste dans une des deux zones. Où, ils ont toujours l'air d'être 4 dans une zone, puis 1 dans l'autre zone. Ça
puis les tirs,
pas,
Alexandre,
là,
traduis-moi ça en chances de marquer. Trouves-tu que c'était toutes des grandes chances de marquer ou c'est.
Ben, ils ont quand même.
Non, pas du tout.
Non, mais
moi,
ils ont eu des chances.
On tire, puis là, après ça, on se défend. Hey, ben, ça me fait penser à l'année,
en fait,
l'année de la grosse misère. Là, c'était ça, la ligne du parti. C'est, hey, on a plus de nos buts que l'adversaire.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la série de défaites, presque tous les joueurs du Canadien, si on prend l'indice Corsi, qui est comme les chances tentées versus les chances accordées, là. Pas les chances, les tirs au but, presque tous les joueurs sont dans le positif. C'est-à-dire que le Canadien tire beaucoup plus que l'adversaire. Presque tous les joueurs, quand ils sont sur la glace, ils génèrent plus de tirs qu'ils en cèdent.
Mais la sauf qualité des chances qu'on donne l'autre base...
Le nombre de 2-1 d'échappés... Hier, là, avant le match d'hier, Carey Price, c'était le 4e gardien de but dans la Ligue qui recevait le plus d'échappés. Compte. Puis dans les chances de marquer de qualité, il était 5e qui en recevait le plus dans c'est toute fou. La ligue, quand même. Là.
Oh, les gars, attendez un petit peu. On a Marc Bergevin qui voudrait intervenir à ce stade-ci. D'abord, oui, Marc.
On va en vendre des burgers.
Oh. OK, excusez-moi. non, mais. Les gars, on n'allait pas. C'est pas parce que les pubs sont bonnes qu'on allait se priver de ce plaisir-là. Qu'est-ce que t'as dit, Marc?
Je veux juste rebondir sur la qualité des chances de marquer. Le Canadien a obtenu autant de chances de marquer de qualité ou des high danger chances en anglais hier soir que contre Boston, c'est-à-dire 12. Fait que hier soir, les 48 tirs au but, ça veut pas dire non plus que c'est des chances de grande qualité non plus. Là. Fait que c'est pas faux.
C'est sûr que t'as été souvent dans l'autre zone, mais c'est parce que la stratégie de l'autre équipe, c'était la stratégie du Canadien l'an passé. C'est-à-dire que la contre-attaque. Et là, on se fait brûler carrément à forcer des jeux qui sont pas là. Et hier, là, t'as pas besoin de connaître le hockey tellement. Là. Je pense vraiment que quelqu'un qui regarde ça à distance, c'était tellement évident. La quantité de surnoms qu'on donnait.
Il y a juste en première période, il y a eu 3 surnoms, il y a eu 2 buts là-dessus. À partir de là, comment tu penses gagner un match quand tu donnes plein de surnoms? Puis en même temps, aussi, by the way, en passant, le Canadien est mauvais mécaniquement. Moi, je pense que c'est de la mécanique, Alexandre.
Parce qu'il joue mal.
Il joue mal. La structure, on s'entend là-dessus. La seule chose, c'est que ça tombe en même temps que ton gardien de but, il est ordinaire. Fait qu'habituellement, t'es capable de te sortir du pétrin. Là, il le fait pas, puis il t'aide pas, puis ça brise le momentum, puis il est frustré. Fait que donc, ça se trouve que ton meilleur joueur est pas capable de contribuer au succès de l'équipe. Ça va pas bien pour le Canadien. Il faut que ça change. Ça part de Carey Price, ça part des gars avec de l'humilité en avant. Ça va faire la différence.
Mm-hmm. Ben moi, c'est là que je pense que le problème est structurel. C'est-à-dire, oui, il y a clairement un problème mécanique, là, je te le donne, mais il y a quand même un manque de talent dans cette équipe-là. L'exécution, le fait qu'on on a si peu de chances de marquer sur le nombre de tirs. Et pour moi, il y a un problème d'exécution. Il y a un problème de talent dans cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe de 100 points, comme je disais tantôt. Il y aura le meilleur coach au monde. Ils ne feront pas 100 points dans la saison, à mon avis. Et, tu sais, ça fait plusieurs fois là, quand même que Claude Julien lance des appels à l'aide de façon déguisée ou pas, là, en fait, qui a besoin de renfort. Pour moi, le simple fait, par exemple, que Price se dirige vers une saison de 69 départs, mm-hmm. tu sais, ça en dit beaucoup, là, sur la profondeur de l'organisation au poste de deuxième gardien. Le Canadien joue avec 22 joueurs plutôt que 23 depuis des semaines. En fait, depuis les blessures de Drouin et de Byron. Et là, Claude Julien, en fait, il est remplacé, il est rentré Kulak dans l'alignement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a besoin d'aide, le Claude Julien, présentement. Là. Puis la prochaine action radicale, là,
ben, il a besoin
elle
ne
viendra
d'aide.
Pas de Julien. Mais attends un petit peu,
Alexandre. Là, dans une ligue où il n'y en a pas de transactions impulsives ou à peu près pas, tu sais, ça serait étonnant de voir quelqu'un débarquer qui va tout régler. Puis c'est rare qu'un joueur change toute la donne, là, honnêtement. C'était, le hockey, c'est un sport d'équipe. C'est sûr que les gros noms alimentent les conversations. Ben, donc, Carey Price fait pas tout à fait de boulot en ce moment. Mais c'est un sport d'équipe, puis je suis obligé de rejoindre Jérémy dans l'aspect mécanique de l'analyse, en ce sens que c'est sûr que ce club-là peut mieux jouer que ça. Ils ont eu la chance. Oui. Ils avaient, dans ces 6 défaites consécutives-là, honnêtement, sans trop se forcer, ils auraient pu en gagner au moins 3. Celle contre les Rangers, c'est inexcusable. En tout cas, minimum 2, plus 2 défaites en prolongation. Fait que c'est pas une aussi mauvaise équipe que ce qu'on est tenté de croire et de voir
bon
en ce moment. Je te dirais pas que c'est une grande équipe.
Exact. Non. C'est pas un club du premier tiers. Ça, on s'entend. Non. Tout le monde s'entend là-dessus.
Regarde Taylor Hall, ils jouent pour New Jersey, puis ils sont hors des séries. Piqué Subban, ils jouent pour New Jersey, ils sont hors des séries. Eux autres, ils l'ont eu, Jack Hughes, ils sont hors des séries. Fait que, tu sais, Isher, ils l'ont eu au premier rang. Ils sont hors des séries, pareil. Fait que c'est pas juste une histoire. C'est qui joue en équipe? Puis je suis fatiguant. Islanders de New York. Oui. Qui joue en équipe dans cette ligue-là? C'est eux autres qui avancent.
Mais tu sais, oui, c'est très difficile de faire un échange. J'ai écrit plein de chroniques là-dessus. Maintenant, quand t'es pas capable de faire un échange, tu oses croire que ton système des ligues mineures peut te fournir des joueurs à l'occasion. Là, je veux dire, ça fait 2 semaines, là, puis il en rappelle pas de joueurs. Il y a un manque de talent en bas. Puis pour tout ce qu'on a vanté, les bons jeunes du Canadien, il y a de l'espoir. Puis je veux dire, présentement, là, c'est pas ce que démontrent
Vas-y. Ben, ça va être très rapide. Et non seulement on rappelle pas de joueurs, mais on renvoie Charles Hudon dans les mineurs chaque jour pour sauver ses journées d'éligibilité. Alors, on s'accroche à Charles Hudon, un joueur qui a joué, je crois, 6 minutes hier ou 7 minutes dans le match. Alors, clairement, le problème de profondeur, il le cache pas, là. Il est là, là.
Ben, c'est un très bon point, Simon-Olivier. Oui, Jérémy, excuse.
Je voulais juste ajouter, tu sais, quand on parle de faire des rappels, honnêtement, je pense que si les gars sont capables de juste faire leur job, je pense qu'avec ce qu'on a présentement, on est capable d'avoir un club qui est compétitif, selon moi.
S'accrocher, là, t'sais.
Compétitif. Je dis pas un club top, là, mais un club compétitif qui va pas avoir des défaites comme on a vu contre les Rangers de New York. Si on fait notre job, je dis bien les attaquants, les défenseurs, si on fait notre job, on est capable de faire quelque chose. Là, vous avez parlé de transactions. Moi, sincèrement, il y a une chose que je comprends pas. Comment ça se fait que, encore une fois, cette année, le Canadien est pris avec un deuxième gardien de but qui donne pas confiance à l'équipe, qui va pas chercher des victoires et qui met toute la pression de performer à Carey Price?
C'est un bon point, mais ça, c'est une décision de directeur général.
Ben, c'est ça.
Mais il faut dire une chose, cependant, Jérémy, si une fois qu'on a dit ça, j'ai pensé à cet élément-là, puis on y a tous, j'imagine, pensé. Tu sais, ils ont pris un gars qui coûtait pas cher, qui est là pour un an pour venir patcher tôt, puis on va voir pendant l'année.
Non, mais tu sais que Price, c'est pas bon au mois de novembre. L'année passée, c'était la même chose.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas planifier une année en disant, bon, Price sera pas bon au mois de novembre. T'sais,
mais il va avoir un bout, ça va être plus difficile.
C'est parce que Price commence à pas être bon parce qu'on donne, c'est une autoroute en avant de lui. Tu sais, je sais pas si ça a commencé par lui qui est pas bon, que c'est devenu une autoroute. Moi, je pense que c'est une autoroute depuis le début de l'année. Puis à un moment donné, ben là, t'en fais des arrêts, t'en fais. Puis à un moment donné, une qui passe, une deux qui passe. Puis à un moment donné, ben ta confiance est atteinte, même si t'es un bon joueur. Mais je veux revenir à ton élément du substitut. Les bons gardiens qui étaient disponibles, des numéros 2, là, t'avais Leonard à 5 millions par année. Puis clairement, il était pas prêt à dépenser ça. Puis tu sais, un gars qui veut rebondir pour un an. Puis un gars qui veut rebondir comme numéro 1. Puis j'excuse pas Bergevin. Je suis d'accord avec toi, ça aurait pris un gardien peut-être de meilleur calibre. Puis l'autre, c'est Michael Haney qui est à Tampa Bay. Je me souviens pas de son salaire par cœur.
1.3.
Puis ils ont donné 2 ans, je pense, si je me trompe pas. On a donné 2 ans à Kincaid, remarque. Mais, je veux dire, oui, ça aurait pris un deuxième meilleur gardien. Mais tu sais quoi le problème? C'est encore le repêchage, Jérémy. Absolument. Ça passe par le repêchage. Tu sais, pensez-vous qu'on a fini de payer pour des années de repêchage
Mario, quand je dis, c'est
sérieusement, puis devant le filet, là, quand on a drafté Zach Foucalé, là, ça aurait pu être lui ou un autre, là. Mais normalement, faut que t'aies un gars qui vient pousser ton vétéran. C'est jamais arrivé. Fait qu'on engage des plombiers qui traînent sur le trottoir pis on les amène à Montréal.
Mais on part de, Mario, on part de loin, là. Si tu veux me parler de la séquence difficile du Canadien, on part de loin si tu me parles du repêchage. Moi, je pense qu'à court terme, si on était capable d'aller chercher des Gouttsev, entre autres, qui était avec les Golden Knights de Vegas, qui s'est ramassé avec Dallas, qui était dans KHL, viens pas me dire qu'on n'est pas capable de trouver un bon gardien de but qui pourrait venir tenter sa chance dans la Ligue nationale de hockey, sa planète hockey. Je pense qu'on est capable de faire ça, mais je pense, sincèrement, puis ça, c'est mon humble avis.
Ben, n'as-tu bien pas rentré dans la Ligue de même?
Non, mais je fais juste réfléchir avec toi. Ce que je pense, c'est je pense qu'on fait extrêmement confiance en Carey Price, mais je pense que, tout comme nous, il est humain, puis il y a des bouts où ça va être plus difficile pour lui. Et là, il faudrait s'assurer d'avoir quelqu'un qui est capable de donner confiance aux autres. Et là, présentement, c'est pas le cas avec Kincaid. Fait que donc, ça fait en sorte que c'est Price qui a toute la poutine devant lui. Il faut qu'il soit Dieu le Père. Puis s'il manque un but, tu sais, hier, là, sur le cinquième filet, là, écoute, c'est Severson qui a marqué. Non, c'est ça, cinquième filet.
Du côté
écoute,
du biscuit, le lancer parfait, là.
C'est une shot de la Ligue nationale.
C'est un shot.
Sérieux plomb, là. Bon lancer. Mais là, on va dire, ah, Price,
il
était mauvais.
Un petit peu à gauche, mais tu sais, ben, ça rentre. Puis là, il sait qu'il va jouer un 2 contre 1. Weber est complètement mêlé dans ses patins. Tu sais que la passe reste de venir. Non, mais c'est pas facile, là.
Il y a de la misère à se pencher, Weber. Écoute, il se penche, puis c'est archaïque, là. Tu le vois que ça, il y a de la rouille là-dedans. Écoute, c'est normal que tu triches un peu, puis il se fait battre.
J'avais suggéré de prendre des cours de danse, mais qu'est-ce que tu veux?
Mais le fait est que, présentement, c'est quand même pas le gardien substitut qui est la raison de la débâcle du Canadien.
Ni mais l'absence de Jonathan Drouin en défensive, c'est pas ça qui te fait que tu donnes 8 buts, puis 6 buts, puis 6 buts.
Mais néanmoins, le Canadien a complètement négligé l'absence de gardien adjoint depuis que Carey Price est un numéro 1 établi. Juste vous dire, je sais pas si c'est assez obscur. En 2014, Marc Bergevin a acquis un gardien de but des Prédateurs de Nashville qui s'appelle Devan Dubnyk, il était dans le cours. Il a jamais eu aucune volonté de le garder avec l'équipe. Il est parti l'été suivant ou l'année d'après comme agent libre. Puis on a vu les succès qu'il a connus par la suite. Le Canadien a développé aucun gardien de la Ligue nationale repêché depuis Price. Foucalé, comme tu l'as dit, ça n'a pas marché. Lindgren avait été signé, ça n'a pas marché. Il y a eu tout le chapelet de gardiens substituts qui a fini par Niemi, maintenant Kincaid. Il y a eu aucun joueur établi durable à ce poste-là.
Et là, le nom qu'on a tous dans la tête et le dernier en liste, c'est Kayden Primo, qui a vu son pourcentage d'efficacité chuter un petit peu dans le dernier match. Il est rendu autour de 9-15. Mais il reste que, quand tu regardes l'effet Carter Hart a eu en entrant en scène l'an passé à Philadelphie, quand tu vois ce qui est arrivé avec Matt Murray quand il est entré en scène avec les Penguins de Pittsburgh, actuellement, je reviens à une des questions, une des premières choses que tu as dites dans le podcast aujourd'hui. Tu as dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais. Honnêtement, je te dis pas que c'est une solution, mais tu veux un électrochoc? On vit dans une monarchie depuis à peu près 12 ans autour de Carey Price, puis c'est pas lui qui l'a demandé, là. Tu sais, c'est la philosophie du ménagement. Faut pas envoyer quelqu'un à Laval, on a donc peur que ça efface mal à sa confiance. Faut pas avoir un gardien trop fort parce que d'un coup, ça dérange Carey. Ça, là, c'est des stratégies de loser, ça. À un moment donné, là, si tu t'améliores en jouant avec les meilleurs, pourquoi qu'on fait jouer des joueurs de 15 ans, des joueurs d'élite avec des 16 ans pour qu'ils deviennent meilleurs? C'est pas en nivelant par le bas. Fait que s'il faut que, juste pour montrer que là, tu viens de secouer ta façon de penser, ramène Primo, fais-y go un match direct en fin de semaine.
Quand on parle d'action radicale, rappelez Primo. C'est un des rares leviers que le Canadien a présentement.
Ben, ils n'ont pas d'autres. Essaye-le.
Mais maintenant... Est-ce que c'est le bon moment pour jeter dans la fosse sous Lyon une recrue de la façon dont la défensive joue présentement? Ouais. Imagine, la première game, t'en donnes 8, là.
Ben, c'est pour ça que je voulais pas en parler, mais là, je me suis laissé aller. Parce que quand je raisonne, je reviens à ce que tu viens de dire, Mario,
moi, je pense que ça prend une action radicale chez le Canadien. Et à mon avis, le congédiement de Julien n'est pas l'action radicale que le Canadien doit prendre.
Essaye d'autres choses avant, là.
Si, des solutions à l'interne, il y en a pas 42. Je pense que celle-là est dangereuse parce que de la façon dont joue l'équipe présentement, malheureusement, je pense que c'est vraiment, là, l'envoyer, là. Écoute, aucune protection
à l'abattoir. C'est sûr que ça change pas de façon de jouer en avant, c'est dangereux. J'en conviens.
Mais tu sais, il y a pas 1000 mots.
Oui, Jérémy.
Oui, vas-y.
Je voulais dire, est-ce que je peux me permettre, on peut-tu jouer au coach une petite minute, maintenant? On va jouer au coach.
C'est pas fait. C'est pas mal ça, DG, coach, GM.
On est tout mélangé.
Prez, si tu veux, ouais, man.
OK, non. On va jouer au coach une minute. Moi, sincèrement, ce que je ferais avec mes quatre trios d'attaquants, là, chez les Canadiens, étant donné qu'il manque de discipline, il manque un brin de retenue, là. Tout le monde est fringant, puis tout le monde veut sauver l'équipe. Tout le monde veut marquer, des fois, avec des jeux individualistes. On est au fond de la zone. Moi, personnellement, ce que je ferais, je nommerais un gars par trio. toi, tu vas être le gars qui va rester en haut. Il y a personne qui veut prendre l'initiative de rester en haut puis donner un coup de main. Parfait. Je nomme un gars par trio. Tu vas être là. Tu vas être là. Tu vas être là.
Tu penses pas qu'ils ont pas fait ça?
Je pense pas. Honnêtement, tu fais ça quand tu fais ça avec des bam-tams. Là, dans la Ligue nationale, si tu me dis qu'ils ont déjà fait ça puis ils le font pas, attends, on a un sérieux problème. Mais moi, je serais rendu à définir un gars précis.
Tu sais, Claude, il dit, c'est pas ça qu'on leur enseigne, là.
Il l'a dit, là. Je pense que la réponse est là.
Entre l'entraîneur et les entraîneurs, puis ce qu'on enseigne, puis ce que les joueurs décident de faire, là, ils sont pas sur la même page, vous me passez l'anglicisme, les gars.
Non, clairement. Clairement. Puis même Claude Julien a dit, après la défaite contre les Bruins de Boston, si les gars veulent le faire, il a dit ça.
Si les gars veulent le faire,
écoute bien, là, ça veut dire que lui, là, Julien, il a regardé, puis son groupe d'entraîneurs, ils ont regardé les vidéos, ils ont bu pas mal de café, puis ils ont dit, c'est-tu quoi, regarde, on est mauvais parce qu'on donne des surnoms, puis tout le monde nous attaque là-dessus. Fait qu'il est arrivé dans la chambre, il a dit, hey, les gars, on est mauvais, on donne des surnoms, puis tout le monde nous attaque là-dessus. Fait qu'il faudrait essayer de corriger ça. Le troisième attaquant va rester plus haut. Il arrive sur la glace, tout le monde est dans le fond de la zone. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a plus rien à faire si les gars décident de ne pas le faire.
C'est correct que la pression tombe sur les joueurs de temps en temps.
Ben oui, aussi. À un moment donné,
on veut jouer au coach, là. On veut jouer au coach, là. Regarde, tu mets quatre gars à ligne rouge. Puis je dis, c'est comme. Allez, faites même pas de
chèque. Comme Guy Boucher!
Oui,
comme Guy Boucher!
Attendez, ici, puis là, vous n'en ferez pas de points. La game va finir un zéro.
C'est une équipe de contre-attaque, le Canadien de Montréal. Ça devrait être une équipe de contre-attaque. Puis là, ils pensent qu'ils sont les Oilers d'Edmonton du début des années 80.
Mais je veux juste dire, il y a des gars qui ont des très belles stats. Il y a des gars qui ont des très, très belles stats.
Même dans le différentiel, plus et moins. Même dans, ça suit jusque dans les plus et les moins.
Ils donnent beaucoup de buts à des avantages numériques. Là, ça les aide, il faut dire.
Il y a ça, t'as raison.
Mais non, il y a des gars qui sont sur des très, 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 très belles saisons. Tatar est dans les bons marqueurs de la Ligue. Je pense qu'il est dans le top 50 là, de la Ligue.
Oui, mais défensivement, écoute, ça n'a pas d'allure depuis deux semaines. C'est un des pires.
Hier soir, c'était moins pire. Le trio de Dano a eu une bonne soirée hier soir quand même.
Les gars, le DG en a-t-il assez fait depuis le printemps dernier pour donner à son entraîneur un club capable de lutter pour une place en série? Et dans cet ordre d'idées-là, là, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il est venu jouer deux fois dans les deux dernières semaines. Le Taylor Hall, on avait ensemble abordé la possibilité que le Canadien puisse s'intéresser à un joueur comme celui-là. Darren Drager a véhiculé et affirmé tenir de bonnes sources que Taylor Hall serait ouvert à signer un contrat à long terme. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est les agents qui manipulent des insiders du hockey pour faire gonfler des ballons, là, mais reste, est-ce que ça serait une bonne idée de regarder de ce côté-là? Et d'ailleurs, parce que Marc Bergevin, avant la saison, savait qu'il y avait un club qui avait besoin d'aide. Parce qu'il a fait une offre hostile à Sébastien Aho.
Ben oui. C'est certain, Mario, si t'amènes un gars comme Aho, ton équipe est un peu meilleure, c'est certain. Là. Je suis stupide de dire le contraire. Mais Suzuki, je le voyais pas ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qu'il était au mois de juin. Là. Fait que alors, c'était une surprise positive.
Ben, je reviens à ta question de base qui était...
Donc, Taylor Hall. Il sait mais c'est-à-dire qu'il pourrait offrir 60 millions ou autour, là, j'ai pas le chiffre exact, à Aho et les offrir à Taylor Hall. Est-ce que tu reçois ça de la même façon, Simon-Olivier?
Ben, je suis un peu mitigé par rapport à Taylor Hall parce que, d'un côté, embaucher Taylor Hall, c'est hypothéquer le futur. Le futur qui est en fait qui est Gallagher, qui est re-signé Gallagher, re-signé Petri, re-signé tout le monde, qui va coûter cher. Mais en même temps, ne pas signer Taylor Hall, c'est persister avec le noyau qui est là, qui on en débat depuis déjà 20 minutes sur le noyau qui fonctionne pas, qui fonctionne en attaque, mais qui fait pas gagner cette équipe-là. Le Canadien a toujours pas son défenseur gaucher qui espérait dans la saison morte. Puis tantôt, tu posais la question, est-ce que Bergevin a fait ce qu'il faut cet été pour que le Canadien devienne une équipe de série? Ben la réponse est non. Puis lui-même le disait au tournoi de golf ou au camp d'entraînement, il cherchait un défenseur gaucher qu'ils n'ont pas trouvé.
Est-ce qu'on peut y pardonner ça, Alexandre Pratt? Je veux dire, il n'a pas trouvé, puis peut-être qu'il n'y en a pas. Puis c'est vrai que regardez les échanges qui sont effectués, il n'a pas bien les défenseurs de calibre.
C'est sûr, là, des défenseurs gauchers disponibles, il y en a peu. Là, OK? Et ceux qui sont disponibles, et le prix doit être extrêmement élevé. Là, j'en suis convaincu, là, t'sais, ça se compte en Suzuki plus Romanov et tout. T'sais. C'est, donc, de ce côté-là, c'est très difficile. T'sais. Maintenant, on parle de Taylor Hall. Je vous ai déjà dit là, que je pense tout ce que je pense de mal de Taylor Hall. Je pense pas que le problème à court terme, c'est un problème offensif. Là. Ça, c'en est un autre là, qui joue dans le fond de la zone. Je pense vraiment que le problème,
mais
c'est
en défense. Mais il a essayé d'aller chercher à haut quand même.
Oui. Mm. Si
on suit son raisonnement, avant de mettre la main sur un défenseur gaucher, il a fait une offre hostile pour un attaquant.
Puis
la défensive, le jour que les gars décident de jouer défensivement, moi je pense que...
La défensive, ça se passe à 5. C'est à 5. Il y a 3 attaquants, puis il y a 2 défenseurs. C'est ça la défensive.
Mais Taylor Hall, c'est pas un gars, mettons, qui joue souvent dans un groupe de 5 dans son défensif. En tout cas, c'est pas sa force. Alors que Sébastien Aho, c'est un vrai centre, un vrai tout-way, un petit peu dans le moule de Ryan Riley en moins défensif, évidemment.
évidemment.
Mais
là.
Moi, j'ai l'impression, là, je regarde ça, puis c'est quoi, c'est Marc Bergevin, là, on dit qu'il est en Russie pour aller parler pour Romanov, puis tout ça. J'ai l'impression que Romanov fait peut-être partie d'un projet pour justement combler ça, avoir une meilleure défensive de cette façon-là. Je pense que Cole Caulfield va arriver aussi. Je suis pas du genre de dire, attention, le sauveur arrive, mais un talent brut pour marquer des buts, tu peux pas nier que ce gars-là pourra faire la différence dans la Ligue nationale de hockey, selon moi. Je pense que c'est selon moi. Maintenant, si tu ajoutes avec ça un gars comme Taylor Hall, écoute, tu commences à avoir beaucoup de punch à l'attaque. Mais ça demeure un club qui doit être conscient que le quatrième trio, c'est pas à cause que tu connais du succès que tu es rendu à première ligne. Tu sais, des fois, l'impression que les chiffres 1, 2, 3, 4, on les mélange, puis tout le monde pense qu'il est rendu en avantage numérique sur le premier trio. Attention, si tout le monde fait sa job, je pense que ça peut marcher. Mais encore là, pour faire des séries, j'ai pas dit pour gagner la Coupe Stanley, là. Pour faire des séries, je pense qu'on a un club capable de faire des séries.
Mais c'est sûr que Taylor Hall a un plus grand talent offensif, là. Puis, tantôt, on parlait de problèmes d'exécution, là, que le Canadien et ses chances de marquer, il en score à peu près 1/4, là, ou quelque chose comme ça, c'est pas fort. Mais, tu sais, Taylor Hall, cette année aussi, c'est difficile. Un pourcentage de tir, là, dans les 10 derniers matchs de 4%, c'est aussi un joueur qui est en difficulté. L'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on donnerait pour avoir Taylor Hall sur le court terme?
Vrai, ben, c'est une excellente question.
On s'aiderait pas de défenseur, c'est sûr, il en manque, là. Fait qu'on s'aiderait un attaquant, puis, on s'aiderait un jeune attaquant, lequel?
Mais il y a une chose qui est certaine, on n'en parlerait probablement pas. Il y a un gars, je sais pas si je le fais en quiz, des gars, quel gars n'a pas été remplacé les dernières années chez le Canadien de Montréal? Il y en a un qui n'a pas été remplacé. Puis il amenait quelque chose que personne n'a. C'est Radulov qui n'a pas été remplacé. Oh, ouais, l'enveloppe salariale qui servait le pays, puis ce que lui faisait avec cette enveloppe salariale-là, là, tu sais, quand Drouin a été acquis, on s'est dit, hey, Radulov, Drouin, mais non, eux autres, ils ont eu la bonne idée de le laisser aller. Puis, ils l'ont jamais remplacé.
Mais l'aspect
quand
physique...
Drouin part, je veux dire, enfin, c'est sûr et certain que, tu sais, t'en avais deux guns, là. Tu n'as un gun. Ben,
mais l'aspect physique de Radulov n'a juste pas été remplacé aussi parce que ce gars-là était, oui, capable offensivement, mais sa force physique pour prendre possession de la rondelle, ça, on l'a pas chez le Canadien, là. C'est tout du monde, faut que tu laisses sa palette, on patine vite, on déborde parce que sinon, les batailles un contre un sur le long de la rampe, des fois, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on joue, en tout cas, c'est ce qu'on voit chez le Canadien.
Le fameux club qui a reseté, là. Tu sais, des fois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, hein. Mm-hmm. Mais il a reseté. Puis des fois, ben quand tu resets, tu sais pas combien de temps, puis tu peux pas prédire la date que tout va bien aller non plus. Là, il y a pas de garantie là-dedans. Là, parlez-en à Edmonton, parlez-en à Toronto, parlez-en à toutes les équipes qui ont fait ça pendant plus qu'une décennie. Là.
Ben c'est parce que l'autre affaire, les recrues, ils montent pas vite. Là. Oui, il y en a trois dans l'alignement. Ok, il y en a un qui est bon, là, Suzuki. Il y en a un Fleury qui est à mon avis sous la moyenne. Kotkaniemi, ça va pas bien. Peeling à Laval est en apprentissage. Joël Bouchard, cette semaine, a d'ailleurs dit, c'est la première fois que là, je vais pouvoir le coacher, le mouler, ce qui laisse pas entendre qu'il va revenir à court terme dans l'alignement. Puis après, là, après ces quatre-là, là, présentement, Romanov est en Russie, je sais pas trop, il y en a en Suède, au Tatarstan, puis partout. Caulfield, ça, je suis d'accord. Oui, il y a un talent. Mais c'est pas des gars là qui vont aider. Bon. Caulfield, même s'il est avec le Canadien l'année prochaine, là, d'abord des joueurs de 19 ans dans la Ligue nationale, il y en a presque pas contrairement à ce
les gars. Parle. McDavid là, y a-tu un joueur meilleur que ça dans notre pool là? Les Oilers ont fait les séries combien de temps depuis qu'ils l'ont McDavid? Fait que nous autres, on se bourre le crâne avec des gars qu'on n'a pas vus, puis on joue avec l'illusion. Puis d'ailleurs, c'était une de mes questions. Je suis content que tu amènes ça. J'avais envie de vous demander aujourd'hui, êtes-vous toujours convaincu que le CH possède l'un des plus beaux pools de jeunes talents de la LNH? Ou le concept d'un avenir prometteur, comme Jeff Molson le disait récemment, là, on va être bon dans 3 à 8 ans, là, a du plomb dans l'aile. Parce que tant qu'on les a pas vus, tu peux toujours te faire aller et te dire, hey, ouais, nos jeunes sont bons. World Junior, pendant 2 semaines et demie, là, ils ont été vraiment bons. Romanov, il est incroyable. Il a 3 passes en 30 matchs en KHL. C'est par lui que ça passe, tu sais, le Canadien de Montréal. Puis quand on les voit, ben, tu sais, on voit qu'il y a pas personne qui fait de miracle. Puis c'est correct qu'ils fassent pas de miracle. C'est pas des mecs David.
Mais moi, je pense qu'ils sont dans le premier tiers des espoirs, là, dans le top 10, oui. Est-ce que c'est comparable avec les Rangers? Est-ce que c'est comparable avec Vancouver et Los Angeles?
Ottawa.
Non, mais tu sais, je pense que tout le monde switcherait Ottawa puis Montréal, là, au niveau du pool de talent. Là, tout le monde prendrait Thomas Chabot, c'est sûr. Mais non, je ne suis pas convaincu, moi, que dans 3 ans, cette équipe sera si extraordinaire avec le pool qu'il y a présentement. Oui, ils vont avoir l'opportunité de changer tout le monde dans 1 an et demi, quand tout le monde va devenir joueur autonome en même temps, et ça va être une occasion, mais non, moi, je suis plutôt inquiet.
Mais de toute façon, tantôt, Mario, tu t'évoquais le fameux reset qui était on voulait pas reconstruire, on réinitialisait.
Oui.
C'est quoi ce reset-là? Je veux dire, c'est
c'est un pic d'avance, c'est tout du marketing.
C'est pas arrivé, cette reconstruction slash reset-là. Le Canadien a jamais dit, comme les Rangers l'avaient fait publiquement, de dire, bon, ben là, on va liquider les vétérans, on va liquider les contrats, liquider les vétérans, on va reconstruire pour la peine. Le Canadien n'a jamais fait ça.
Ils ont liquidé les gars qui n'aimaient pas.
Ben, ils l'ont fait,
ils
l'ont pas dit parce que c'est pas dans leur habitude de le dire clairement de même parce qu'ils pensent qu'à Montréal, on peut pas le faire, mais ils sont en train de le faire pareil. Mais quand t'as raté série 3 années sur 4, viens pas me dire que c'est pas ça que tu fais, là.
C'était pas une reconstruction, c'était pas un reset, c'était un échange des joueurs.
C'est une mise à jour. Ils ont fait une mise à jour. Mais les gars, je veux juste vous dire une chose. Là, j'ai le classement devant moi, puis le Canadien est à 2 points des Panthers de la Floride, qui sont 2e dans la division Atlantique, sont à 1 petit point des Leafs de Toronto, qui est 3e dans la division Atlantique. Heureusement, cette année, la division Atlantique connaît des problèmes comparativement à l'an passé. Mm-hmm. Et ça veut dire que malgré 6 défaites, malgré tout ce qu'on parle, malgré, selon vous, du manque de profondeur, moi, je pense que les espoirs sont plus que potables.
Hey, t'as pas vu 22 matchs de jouer, Jérémy. Là,
ça, t'as raison.
Toronto,
t'as raison, mais il y a 2 places quand même. T'as Floride,
c'est
t'as
les
Toronto.
Wildcards. On s'entend que le Canadien lutte pour une ouais, des non, grandes
mais,
équipes
mais, non, mais t'as Floride-Toronto. Je veux dire, si t'aimes pas monde, tu peux avoir Floride aussi qui sort de là. T'as de la place
oui,
là-dedans.
Oui, Floride et Canadiens, d'après moi, vont lutter pour une des places de Wildcard avec les équipes de la métro. Là.
Mon point, ce que je voulais dire, c'est malgré tout ce qu'on peut regarder après 6 défaites, je pense que c'est un club présentement qui a pris le moule de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire jouer du hockey dans la rue. Ça veut dire, c'est le festival de tu scores, je score, tu scores, je score. Les Canadiens, excusez-moi, ils n'ont pas le talent pour faire ça. Si on restructure ça, si on se met vraiment à jouer au hockey puis qu'on est honnête dans ce qu'on fait, puis tu parlais de tricheurs à patinoire, si on est honnête, je pense que dans les prochaines années, et si on demeure honnête, dans les prochaines années, les recrues qui vont s'intégrer là-dedans vont pouvoir bien paraître. Là, présentement, rentre n'importe qui, c'est croche. C'est croche. Écoute, c'est dans le fond de la zone, c'est tout croche. Puis, en respect à Brendan Gallagher, là, mais c'est du Gallagher tout le temps. Gallagher partout, tout le temps, en avant, tab, ting, tang, ting. Je vais utiliser le terme cul par-dessus tête, c'est ça tout le temps. C'est pas de même que ça marche, le hockey. C'est pas ça, le hockey.
Le Canadien, là, tu parles de stats, c'est le 3e club dans sa conférence qui a accordé le plus de buts. Puis, et tu sais, moi, avant de mettre la place au classement, je regarde plus le différentiel parce que la corrélation est à peu près de 100% là, à la fin de l'année, quand on regarde les buts pour, les buts contre, là, ça te met à peu près dans le classement. Ils sont 11e présentement dans la conférence. T'sais, ils sont à moins 4, puis juste à côté de Buffalo.
Il était à plus 9, là, je pense, 2-3 semaines
absolument,
ou 4 semaines.
Absolument.
Ça a chuté dramatiquement.
Et ils sont à la conférence des Red Wings, qui sont hors de ce monde, en fait.
Non, c'est ça, moins 45.
C'est pas Jojo, la parenthèse qu'on a des 6 défaites consécutives, là, c'est pas rassurant pour la suite. Ça se replace, mais c'est sûr que c'est pas un échantillon.
Ils ont perdu
rassurant.
Contre des clubs chaudrons. Oh, oui. Je veux dire, les clubs qui sont en dessous d'eux dans le différentiel, là, ils ont perdu contre ces clubs-là.
Mais j'aimerais ça poursuivre sur les jeunes d'un autre angle, les gars. C'est que on peut avoir notre opinion sur c'est quoi la qualité du pool de talent sur lequel pense compter le Canadien de Montréal, mais bientôt aussi, il faudra peut-être se demander si on s'y prend de la bonne façon avec ces jeunes-là. Tu sais, je sais pas à quel moment, maintenant, on se questionne sur finalement le développement de Kotkaniemi, parce que c'est du recrutement et c'est du développement. Puis des fois, je disais toujours, tu peux pas extraire de l'eau d'une roche, là, mais Kotkaniemi, c'est pas une roche, là, c'est un gars qui a du talent. Suzuki est un gars qui a du talent. Peeling semble avoir des attributs. Trouvez-vous qu'on s'y prend de la bonne façon pour développer les jeunes qu'on a en s'en servant le plus tôt possible, en se faisant croire qu'ils nous forcent la main dans des matchs de camp d'entraînement contre des équipes de Ligue américaine? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ou on s'en sert juste finalement parce qu'on n'a pas d'autre chose?
Mario, ils s'en servent parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Je veux dire, de mettre des gars de 18 ou 19 ou 20 ans dans la Ligue nationale, ou bien ils ont un super talent ou bien que t'as pas de profondeur. Puis moi, je pense que le problème, ça fait plusieurs mois que je le dis, là, c'est les joueurs repêchés entre 2011 puis 2016, et il y en a pratiquement pas. Là, présentement, le Canadien, là, il devrait avoir normalement plein de joueurs qui ont 24, 25, 26 ans, qui ont été repêchés par le Canadien. Là. C'est pas le cas, là.
Mais non, c'est le néant.
C'est vraiment pas le cas.
C'est le même monde qui repêche. Puis là, mais non, mais
c'est une plate à dire, mais t'as raison.
Mais c'est vrai, puis c'est du quoi? Mais là, hey, les dernières années, ils ont bien repêché en tabarouette, par exemple. C'est bien meilleur. Jusqu'à temps qu'on voit que c'est peut-être pas ça. Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est facile de.
Ouais, mais c'est facile de
vendre
de dire
le nouveau
ça.
Modèle, puis
t'as raison.
Ouais, t'sais,
t'as raison.
Tu sais, mais juste Kotkaniemi, là, la dernière fois qu'on a repêché aussi haut, on ne sait pas encore si c'est le bon choix. Puis en ce moment, on le sait qu'il y en a un autre qui a été choisi juste après, qui aurait peut-être aidé plus l'équipe l'an passé, puis cette année. On verra dans 2 ans, dans 3 ans. On n'a pas démissionné, mais. Fait que si en plus de ça, tu retournes dans la cave, puis tu repêches pas les bons gars, c'est là, c'est plus juste des drapeaux jaunes, là, c'est des drapeaux rouges, là.
Mais tu sais, on parlait tout le monde ensemble à savoir. est-ce qu'on fait ça trop rapidement, les faire sauter les jeunes recrues dans la Ligue nationale? T'sais, j'ai l'impression que c'est la Ligue nationale, hein, ça, maintenant. C'est une question d'argent parce que tu as des gars qui sont supposément de calibre pour jouer à moins cher, puis tu les amènes le plus rapidement possible parce que tu es capable de sauver de la place sur la masse salariale. T'sais, chez le Canadien, est-ce qu'on fait la même chose? Il y a encore de la place à la masse salariale, mais on semble pas vouloir dépenser pour un joueur autonome qu'on va être pris avec le contrat. Fait que donc, tu sais, c'est difficile à juger, mais je pense que le Canadien est juste le reflet de ce qui se passe dans la Ligue. C'est les jeunes le plus vite possible, on les monte en haut parce qu'ils coûtent pas cher pendant 3 ans, puis on essaie d'en profiter lui, au maximum.
Ben t'sais, en même temps, de tout le draft de 2018, savez-vous combien, celui que Camille, savez-vous combien de gars dans la Ligue nationale ont joué plus que 20 matchs?
Vas-y, non,
il y en a 5 seulement. T'sais, fait, oui, la Ligue nationale s'est régénérée. Il y a plus de joueurs de 21, 22, 23 ans, ce qui est exactement ce que le Canadien n'a pas dans son alignement. Ouais. Mais des gars en bas de 20 ans, il n'y en a vraiment pas tant que ça là, dans la Ligue nationale. Là, c'est ça qui est le problème du Canadien, honnêtement, là, c'est que son core, qui devrait être des joueurs entre 23 puis 26, 27 ans, c'est beaucoup des joueurs qu'ils ont acquis de l'extérieur, des Drouin, des Domi, puis je suis d'accord, ils les ont eu contre des choix repêchage, contre Sergachev et Galchenyuk. Mais il y a beaucoup, je veux dire, il y a un gros trou noir de ces années de repêchage. Tu sais, 2015, il y a juste Yolsun qui atteint la Ligue nationale. 2014, Sherbach puis Learnout, les deux sont plus là. 2013, il y a Lekkonen qui est régulier, tous les autres sont plus là. 2012, il y a Hudon qui est encore là, c'est tout. C'est beaucoup d'années là, sans rien mettre dans le line-up.
Les équipes, t'avais-tu quelque chose à ajouter, Simon? J'allais dire, les équipes qui font jouer beaucoup de jeunes et de recrues, là, comme prenons Ottawa comme exemple.
Ben, ils n'ont pas le choix.
Non, ils ont le choix.
Il y en a des bons aussi.
Non, ils ont choisi ça. Ils ont même envoyé dans les estrades des vétérans. Puis, sais-tu quoi? Ils ont gagné des matchs pas mal, plus souvent que le Canadien dans la dernière séquence. Mais on le sait qu'ils vont être sortis des séries. Parce qu'ils font jouer des jeunes. C'est volontaire. Tu sais que de faire jouer des jeunes, ça te sort des séries. En partie, à moins d'avoir des candidats au trophée Calder. Le Canadien n'a pas nécessairement des meilleurs recrues que les Sénateurs d'Ottawa. Mais moi, je reviens à la conversation que j'avais avec Marc Bergevin en début d'année. Quand t'es pas capable d'aller chercher AO, quand t'es pas capable d'aller chercher un UFA, t'es pas capable de faire d'échange. Puis que là, tu dis, OK, on va attendre que les jeunes nous forcent la main. C'est l'illusion. Tu fais quoi sans le dire? Tu fais la même affaire que les Sénateurs d'Ottawa. T'espères que ton club va continuer d'incarner l'espoir. T'espères qu'ils vont bagarrer. Tu sais qu'à Montréal, le monde capote ses recrues, là.
Mario, tu suis pas mon Suzuki.
Puis là, mais t'espères que tu vas lutter le plus longtemps possible pour que le monde, il tombe pas sa tomate. Mais tu sais bien que t'as pas grand chance de faire les playoffs, à moins que tout le monde applique le système à la lettre, là.
T'as un gardien de but qui s'appelle Carey Price, là. T'as pas Anderson ou Nilsson, là. Tu sais, là, Ottawa, c'est Ottawa, là. Mais t'as le Canadien de Montréal, t'as un pas pire gardien. Je pense qu'il est pas pire à travers la Ligue nationale. Malgré qu'il connaît des problèmes présentement.
Mais tu sais qu'un gars peut pas faire tout ça, Jérémy. Longueuil à New York, il
reste exactement, t'as raison. Mais c'est ça, la problématique. C'est chez le Canadien, c'est ça qu'on a en tête. On pense uniquement qu'avec un bon gardien de but, un pas pire défenseur, puis une coupe d'attaquants, on est capable d'aller de connaître du succès. Mais là, je pense qu'il faut
changer de mentalité. Je pense pas que c'est ça qu'on pense, mais ils ont pas d'autre chose. Puis s'ils jouent pas défensivement, puis tu sais, moi, je commence à me questionner, les gars. Claude Julien dit que ça joue pas bien défensivement depuis le début de l'année. Puis il y a une chose qu'on sait. Les gars, quand ils ont fini la saison l'an passé, ils semblaient y croire. Ils voulaient que l'équipe reste ensemble. Vous en souvenez? Max Domi du Won't Happen Again. Toutes les bonnes paroles. Les gars sont bons de dire les bonnes paroles, mais peut-être qu'ils en attendaient du renfort cet été, comme l'année de la mauvaise attitude où Pacioretty avait la gueule de bois dès le camp d'entraînement parce qu'ils considéraient que le club était pas fort. Peut-être que les gars, ils croient pas à l'intérieur. Est-ce que c'est une possibilité?
Ben moi, c'était je dirais pas ma théorie, mais disons une hypothèse que je soulevais en début d'émission en disant à Alexandre, ben Colin, les gars savent comment ça marche, visiblement, tout est là, mais ça n'arrive pas. Mais néanmoins, moi, il y a quelque chose qui me fascine avec le Canadien, c'est l'espèce de fatalisme. C'est-à-dire que c'est toujours plus difficile pour le Canadien. Toutes les équipes de la Ligue nationale font des transactions, et pour le Canadien, c'est difficile de faire une transaction. Toutes les équipes signent des joueurs autonomes, pour le Canadien, c'est difficile. Prenez l'exemple du Lightning de Tampa Bay. Vous allez me dire que Tampa Bay est attrayante et par son équipe et par son marché. Mais cet été, ils ont ajouté 2 joueurs à la formation. Ils leur ont coûté à peu près rien. Patrick Maroon et Kevin Shattenkirk, qui l'ont coûté à 2,5 millions, qui sont des Shattenkirk qui venait d'être acheté par les Rangers, Maroon qui venait de gagner à Coupe Stanley, qui n'était pas signé à Saint-Louis.
Hey, t'imagines-tu si on avait signé ça, Maroon et Shattenkirk, si on avait amené ça avec le Canadien?
Je pense pas que c'est des gars qui manquent aux Canadiens. C'est juste un exemple pour illustrer que ça existe, trouver un joueur ailleurs, colmater des brèches.
Je pense qu'ils sont plus difficiles à amener au Canada qu'ailleurs dans la Ligue, mais je crois que ça existe, c'est possible.
Mais avec le Canadien, c'était toujours comme si c'était impossible. Ça semble être impossible de développer un joueur, repêcher un joueur, échanger un joueur. C'est quoi la suite?
En fait, clairement, attirer des joueurs semble être difficile, puis ça paraît. Le Canadien, c'est pas combien qui accumule les choix repêchage. Je sais pas combien ils ont de choix dans le prochain repêchage. Je pense que c'est une douzaine de choix. c'est voulu là, qu'il y ait deux choix. Là. C'est justement, tu en repêches le plus possible, puis tu espères qu'il y en a deux ou trois qui sortent. Puis je reviens à ça, le gros problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis pendant une période de 6 ans. Puis là, le Canadien en paye le prix aujourd'hui. Sérieusement, c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de joueurs de profondeur de 24, 25, 25 qui seraient prêts à rentrer dans l'alignement à une période où Claude Bergevin a vraiment besoin d'outils. Claude Julien, pardon.
Ils ne font qu'un, ils ne font qu'un.
Ben, je pense qu'ils s'entendent bien, ceci. Mais, tu sais, tantôt, tu disais, les joueurs, est-ce qu'ils y croient encore? Mais Claude Julien, clairement, lui-même, il croit moyen parce que ça fait quand même plusieurs messages qu'il lance qu'il a besoin d'aide, là.
Non, mais en tout cas, la question se pose parce que quand tu y crois pas, regarde les Blues de Saint-Louis faire ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, puis avez-vous entendu la phrase qu'on entend souvent ces derniers jours? Faut se faire confiance. Avez-vous entendu ça?
Oui.
Vous avez tous déjà joué au hockey, Jérémy, nécessairement, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur la glace avec quelqu'un que tu savais qu'il voulait pas te passer à la puck, Jérémy?
As-tu déjà vécu ça?
Bon, mais ça arrive. Quiconque a joué au hockey, là.
C'est arrivé.
Ça arrive. Puis je le vois sur la glace. Je le vois. Puis en même temps, je vois du monde essayer de faire des arrêts à place de Carey Price. Est-ce qu'on sent la confiance de Carey branlée? Tu sais, à essayer de faire le jeu de tout le monde, c'est comme.
C'est ça, à trop en faire.
C'est comme un fil de pêche. C'est comme mélanger un fil à pêche.
Puis quand tu disais, tu sais, les gars qui, des fois, vont garder la rondelle davantage, Max Domi, c'en est un. Il va contrôler la rondelle, il va la perdre au lieu de prendre un lancer, au mieux, peut-être passer la rondelle puis faire un. Tu sais, on appelle ça un give and go. Dans la rondelle, démarque-toi puis va prendre un lancer après. Écoute, il y en a plein de petites choses comme ça. Mais le Canadien est composé de joueurs comme ça aussi. C'est-à-dire, il y en a quelques-uns. Tu sais, Tatar, il a quand même changé de place une couple de fois. Max Domi a changé de place une couple de fois. Sauf que là, si t'es capable de prendre ces gars-là, comme l'an passé, soyons honnêtes, l'an passé, c'était un bon club de hockey. Si t'es capable de les faire jouer ensemble, t'es capable d'arriver puis de faire en sorte d'avoir un club qui est compétitif. Je dis bien compétitif, pas dit des tops, mais compétitif.
Les gars, juste avant de passer à un autre sujet, parce que mine de rien, ça fait quand même un bon trois quarts d'heure qu'on règle les problèmes du Canadien de Montréal. Oh, Marc, excuse.
Oui, je regarde le panneau là en ce moment. Il n'est pas assez gros. Écoute-toi-en.
Ça paraît pas bien, hein, honnêtement.
Mais non, mais honnêtement, là, regarde, j'ai suivi la chorale. Quand les pubs sont sortis, quand ça va bien, c'est correct, c'est le fun, c'est du bon marketing. Mais quand tu fais ça, tu sais que tu t'exposes.
Mais oui.
Puis quand ça va aller mal, ben, il y a des petits blimeux. Il y a des petits blimeux qui vont mettre ça dans leur balado. Oh. Les gars, Bill Peters a démissionné. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entraîneurs, assistants-entraîneurs qui ont des problèmes de sommeil ces temps-ci en attendant que quelqu'un sorte de quoi qui leur est arrivé avec eux sur Twitter?
Non.
Sais-tu quoi? Non. Moi, je le souhaite. Honnêtement, je le souhaite. Je le souhaite qu'il y en ait qui aient des nuits blanches parce que j'en ai vu une multitude d'affaires. Ce que je trouve correct, c'est d'en parler, honnêtement. Je trouve ça ordinaire de faire du name-dropping 10 ans après, mais dans le cas de Bill Peters, je pense que c'était nécessaire parce que des paroles de racisme, ça se tient pas en route. Même v'là 10 ans, même v'là 15, même v'là 20 ans. Mais il y a tellement de coachs qui ont été des bourreaux psychologiques. Là. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Puis les pseudos qui essaient de monter dans la Ligue nationale, là, puis je parle des pseudos des fois qui sont dans des ligues, dans des petites ligues avec des jeunes. Allô, allumé, là, c'est fini cette époque-là. T'es
mais c'est pas fini, ça existe encore, Jérémy.
Ouais, mais
j'ai des parents qui m'ont appelé, là, un gars qui a sauté. Je vais pas faire du name-dropping comme tu viens de le dire, mais il y en a. Il y en a du monde, puis la colonne des victoires justifie des méthodes. Puis tu sais, il y a bien des parents qui embarquent là-dedans tant que leur enfant est du bon côté de la clôture. Hein? Mais pour vrai, là, gars est le favori du coach, le monde s'en fout que l'autre, il mange son pain noir, là, puis qu'il se fasse humilier devant le reste de la chambre. Moi, je peux te dire que pas plus loin que dans le midget 3A, dans une très bonne organisation, c'est quelque chose qui était monnaie courante ces dernières années.
On a fait un article il y a 2 ans à la presse, une équipe de Pee-wee 3A à qui le coach a demandé de faire 500 push-ups habillés après une défaite.
Des taouins, il y en a partout, là.
Mais ceci dit, moi, je ne pense pas que le mouvement de dénonciation ça prendra pas une ampleur de MeToo, là. On va oublier ça tout de suite, là. Un, je pense qu'on aurait pas mal plus de noms déjà après 5 jours, là, tu sais. Et, le milieu du hockey est très conservateur. Il y a tellement d'anciens joueurs, en fait, qui désirent rester dans la game. Que ce soit comme dépisteur, comme analyste à la télé, ces gens-là ne vont pas spontanément.
Tout le monde se protège.
Tu sais, regarde, cette semaine, la presse, on a enquêté, là, quand même, là. Je veux dire, on en a entendu des histoires sur des coachs, pas des rumeurs, là, des faits, là, qui sont arrivés, mettons, il y a une 20aine d'années. Puis quand t'appelles ces joueurs-là, ils veulent pas en parler. Là.
Ben c'est,
alors qu'on avait quand même plus de facilité à faire parler des victimes de MeToo à l'époque. Et pourtant...
Prends l'exemple de Piqué et Wayne Simmons. Comme Wayne Simmons a bien résumé, hey, dit, quelqu'un, un joueur de couleur, là, c'est sûr qu'il s'est fait insulter. Mais les gars veulent pas devenir identifiés victimes.
Alors, moi,
puis, puis Jacques Dussault nous disait, permettez-moi une parenthèse sur son parcours, Jacques Dussault, le coach dans le football, qui est un des rares Québécois dans un monde où ça parlait pas français, il dit « je ravalais souvent ».
Exactement.
Ben, Jackie Robinson a ravalé, puis je pense que ces gars-là ravalent pour pas être juste identifiés victimes, pour être reconnus pour leur talent, mais il y a un prêt payé pour eux autres.
Moi, alors moi, je pense malheureusement pas qu'il va y avoir tant de nouvelles dénonciations, et j'encourage, en fait, ceux qui ont été victimes, je les encourage. Je trouve le geste d'Hakim Alioune absolument sensé. C'était la bonne chose à faire. J'encourage tout le monde à le faire. Je ne pense pas que ça va arriver. Ce qui va changer, par contre, c'est l'attitude des jeunes coachs. Les coachs qui sont montants ou ceux qui sont actifs, là, puis qui ont des mauvais
comportements. Pas tant que les parents vont être complices des coachs qui font jouer leur enfant, mais qui s'acharnent sur d'autres enfants, puis c'est encore le cas au moment où l'on se parle dans le hockey mineur québécois.
MeToo, là, ça a quand même changé dans les organisations de travail. Là, j'étais boss avant, puis absolument, là, les comportements sont tout à fait différents, et ça, je pense que ça va changer dans le hockey mineur. Je vois déjà comment ça marche en junior majeur, ça va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, là, et clairement, mais c'est sûr qu'il y a des coachs de hockey mineur qui, depuis une semaine, là, ils se regardent dans le miroir, puis qui doivent, ils vont changer leur méthode cette semaine.
Puis par ailleurs, contrairement à Jérémy, moi, j'ai aucun problème avec ce qu'on appelle le name-dropping d'il y a 10 ans. Je pense que pour si on veut un réel changement, ben si les exemples dont les gens veulent parler, c'est ceux d'il y a 10 ans, ben parlons de ceux-là et les autres viendront après. Je pense pas qu'il y a de mauvais exemples, à moins que ce soit à ce moment-là de la diffamation ou de la mauvaise interprétation, mais il y a pas de... C'est pas parce que c'est arrivé il y a 10 ans que ça fait assez longtemps. Je pense qu'il faut...
Patrice Brisebois avait déjà déclaré qu'il s'était fait traiter de frog dans la ligue. Vous vous en souvenez?
Oui, très bien.
Le monde n'a pas fait un gros cas, là. Là, ça commence. T'sais, dans le temps, le monde disait ça, puis le gars qui dénonçait la situation passait un peu pour le gars qui était... En tout cas, c'est peut-être parce que c'était un Québécois qu'on tendait moins l'oreille, mais il y a de la discrimination envers des joueurs, mais pas juste à cause de leurs origines. Parfois, c'est t'as le domi de service dans une chambre, là, puis il parle la même langue que
le coach. Mario, attends un petit minute, ça, là, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Ça, c'est le bouc émissaire, OK? Il y a tout le temps un maudit bouc émissaire dans chaque centre de hockey. Le gars
tombé Ignacio, je suis d'accord.
Le gars qui est comme, tu sais, il est fin, il rit pour rien des fois, tu sais pas trop s'il comprend, s'il comprend pas, puis t'as le coach qui varge dessus, puis tout le monde trouve ça drôle. Ça, là, honnêtement, si on était capable juste d'enrayer ça, là, ça, c'est complètement inutile, puis il y en a tellement, puis je sais qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais
j'ai déjà vécu ça un petit peu, ce que tu dis là, je l'ai vécu un petit peu avec un gars qui me coachait midget. Pas des grosses affaires, mais tu sais, disons que c'était pas valorisant ce que je vivais avec. Puis je l'ai revu, puis ça m'a fait plaisir de dire que, alors que j'ai le plaisir de commenter du hockey professionnel tout le temps, puis je pense que j'avais plus de connaissances que lui à l'époque, que ce gars-là m'a jamais rien appris au hockey, là. Tu sais, c'est pas du monde qui ont beaucoup de connaissances à transmettre aux joueurs à qui ils enseignent.
Non, mais moi, j'ai remarqué, ça fait 12 ans là, que je baigne, là, je veux dire, plusieurs fois par jour là, dans le hockey mineur, mais moi, j'ai quand même remarqué un changement là, dans les 5-6 dernières années des coachs envers les joueurs. Là, les coachs, ils jouent pas mal plus la game psychologique du bon bord que c'était le cas avant.
Choix,
j'en ai vu des mauvais coachs.
Regarde, Babcock a une nouvelle méthode, là. Il demande à ses gars, donne-moi une note sur l'effort. Tu sais, c'est ça, l'approche.
Non, mais honnêtement, là, ce qui est ordinaire, c'est qu'il dit à tout le monde. Devant tout le monde. Gars, ça, c'est Marner qui a fait cette liste-là. Qu'est-ce qu'il voulait?
Mais honnêtement, je trouve la communication des jeunes coachs, surtout, la communication des jeunes coachs est quand même meilleure avec les jeunes joueurs aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans.
Ils n'ont pas le choix.
Mais de toute façon, je pense que c'est incomplet, la communication. C'est qu'il y a toute une culture du hockey. Le hockey n'aime pas le joueur différent. Et ça, à tous les niveaux. J'ai fait un dossier l'année passée sur l'homosexualité au hockey. Comme on sait, ça n'existe pas, l'homosexualité au hockey. Ça, c'est très caché. Il y a quelqu'un que j'interviewais, qui me disait dès qu'un joueur, qui soulignait que dès qu'un joueur dans un vestiaire est différent, et ça à n'importe quel niveau, il est ostracisé par ses coéquipiers, puis par son coach. Quand un joueur sort un livre, ses coéquipiers n'aiment pas ça, c'est bizarre, un joueur qui lit. Dougie Hamilton, un défenseur des Hurricanes, qui a une saison extraordinaire, ça fait des années qu'il y a des rumeurs sur lui comme quoi il est assez marginal dans son équipe parce qu'il aime ça aller au musée pendant que les autres joueurs font je ne sais quoi sur la route. C'est l'intello du groupe, c'est le bizarre du groupe. Le hockey n'aime pas ça, le joueur qui est pas comme les autres. C'est un sport qui ne prône que l'idée de l'équipe. On pense pareil, on mange pareil, absolument, on parle pareil. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer aussi.
Il y a d'anciens joueurs qui dénoncent depuis deux jours les initiations auxquelles ils ont pris part. Et ces joueurs-là sont pris à partie sur les médias sociaux par des jeunes joueurs là, qui ont entre 18 et 21 ans aujourd'hui, qui leur disent, voyons, ce sont les meilleurs moments de mon stage junior. Je m'excuse, mais moi, mettons, être tout nu dans une douche...
Le jour où tu te fais ranger le poil à grandeur,
exactement,
avec,
ou bien pire que ça.
Un gérant tendancieux qui regardait avec plaisir.
Hey, si c'est ça ton plus grand moment de stage de junior, tu dois avoir une plate en maudit.
Ouais, c'est incroyable, pareil, de valoriser ça, de penser que tu as vécu des grands moments à travers ça. Les gars, on est tout près de, pour la première fois, d'atteindre une heure de contenu de podcast. Mais pour atteindre l'heure, il faudrait qu'on fasse une entrevue one-on-one avec Simon Olivier. Puis tu nous dises, c'est quoi d'être le seul gars du beat à Montréal à avoir jamais couvert une victoire du Canadien?
C'est... ben moi, c'est pas sur moi que ça repose qui gagne ou qui perd. Moi, je fais mon travail dans les deux cas.
Puis en plus, Simon-Olivier a jamais couvert une victoire, mais il a couvert un congé d'email, imaginez.
C'est la malédiction de
l'orange. En 2012, par hasard, t'étais tombé sur le congé d'email de Pierre Gauthier.
Alors, pendant la saison horrible 2011-2012, j'étais le remplaçant du remplaçant du remplaçant un matin de semaine. On me demande de faire une pratique. Je suis tout excité. J'arrive dans mon auto et j'entends sur les ondes du 98.5 que Pierre Gauthier venait d'être congédié. Alors, on m'a envoyé la cavalerie en renfort et ma première journée de célébrité sur le beat a été un peu en demi-teinte.
Là, je sais pas si c'est toi qui leur porte mauvais sort. Là, j'ai un texto qui vient de rentrer du Canadien. On t'invite à une visite lundi, puis ça te donnerait un break de podcast. Fait que peut-être que non. Hey, les gars, merci beaucoup. Merci. C'était bien le fun. Yeah. Hein?
Merci beaucoup.
Voulez-vous un petit burger avant de... Non?
Pourquoi pas?
Bonne fin de semaine, les boys. On sait même pas demander combien de points sur 4. Oh. Allez, hey, le Canadien va-t-il en gagner une en fin de semaine?
Non.
Aïe, moi je vais dire, OK, 2 points sur 4.
Boston vient d'avoir une sixième victoire consécutive, juste comme on vient de comme c'est à ce moment.
Je suis bouche bée, les gars.
Zéro,
je ne sais plus quel bord prendre. Fait que je vais me contenter de vos réponses. Salut tout le monde, à la prochaine sortie de zone. Ciao.
On va en vendre des burgers.